Ou à Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Claire Morin-Gibour avec vous en direct du studio 9 de la Voix de l'Amérique à Washington. Bienvenue dans le monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir, le Cameroun lance un appel d'offres pour la construction d'une résidence de fonction pour le président du Conseil constitutionnel qui a proclamé hier la victoire de Paul Biya. Manifestation en Centrafrique de partisans du président de l'Assemblée nationale menacé de destitution. Manifestation également en Guinée. L'opposant Seydou d'Alem Diallo affirme avoir échappé à une tentative d'assassinat. Enfin, les États-Unis vont exiger des réponses de l'Arabie Saoudite sur la mort du journaliste Jamal Khashoggi, selon le vice-président Mike Pence. Également, dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. Ce soir, dans l'actualité africaine, ces tensions au sein du Parlement centrafricain. Des partisans d'Abdou Karim Mekassoua, le président de l'institution, ont marché ce matin à Bangui pour dénoncer la procédure de destitution en cours. Ils ont remis un mémorandum au chef de la MINUSCA. À Bangui, pour VOA Afrique, Freeman Sipila.
Les manifestants, plusieurs centaines selon les organisateurs, une centaine selon des observateurs neutres, ont marché du PK5, quartier d'Abdou Karim Mekassoua, jusqu'au quartier général de la MINUSCA. Ils dénoncent une machination au sein de l'Assemblée nationale pour évincer du perchoir leur leader. Patrick Kosangé, coordonnateur du mouvement politique d'Abdou Karim Mekassoua dans le 2e arrondissement.
Il y a un système de monnayage qui se fait. On est en train de monnayer, on est en train de manipuler, on est en train de tirer de par-ci par-là pour essayer de prendre ce qui n'est pas reconnu, ce qui n'est pas clair pour mettre à la place de ce qui ressort du règlement intérieur de la
95 députés sur les 140 à l'Assemblée nationale ont déposé la semaine dernière sur la table de la conférence des présidents des commissions une motion pour exiger la destitution d'Abdou Karim Mekassoua du perchoir. Ces parlementaires reprochent au président du Parlement le manquement à son devoir dans la gestion de l'institution. C'est vendredi 26 octobre que le sort de l'actuel président de l'Assemblée nationale sera connu à l'issue d'une plénière des députés. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Le gouvernement du Cameroun a lancé un appel d'offres pour la construction d'une résidence de fonction pour le président du Conseil constitutionnel. C'est au lendemain de la proclamation par ce même conseil de la réélection de Paul Biya à un 7e mandat consécutif. Nous faisons le point avec Eric Manirakiza.
Dans la perspective du développement du patrimoine national, le ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières lance par un appel d'offres national pour la construction de la résidence du président du Conseil constitutionnel à Bastos, quartier Huppé de Yaoundé. Cet appel d'offres daté du 12 octobre est publié ce mardi dans le journal d'État Cameroon Tribune. Plus de 272 millions de francs CFA seront alloués pour la construction de cette résidence qui sera occupée par Clément Atangana, président du Conseil constitutionnel. Il a proclamé hier les résultats de la présidentielle du 7 octobre, donnant Paul Biya largement vainqueur avec 71,28%. La France a, lui, adressé ses vœux de réussite pour son nouveau mandat. Le département d'État américain a indiqué hier avoir relevé un certain nombre d'irrégularités avant, pendant et après le vote, créant l'impression que l'élection n'était pas crédible ou vraiment libre et équitable.
En Guinée, l'ancien Premier ministre Seydou d'Alem Diallo a dénoncé ce mardi ce qu'il appelle une tentative d'assassinat. Selon le leader de l'opposition guinéenne, son véhicule a été traversé par une balle alors qu'il se rendait à une manifestation interdite par les autorités. Des précisions avec Jacques Aristide.
D'après le chef du parti UFDG, les gendarmes ont visé et ont tiré en ajoutant que son chauffeur est blessé au visage par des éclats de verre. La balle, poursuit Seydou d'Alem Diallo, est passée juste entre son chauffeur et lui. Le porte-parole de la police n'a pas voulu réagir, tout comme le ministre de l'administration territoriale, Bouraima Kondé. Pour Seydou d'Alem Diallo, il s'agit de la preuve la plus éloquente qu'on a voulu l'assassiner. Cette accusation intervient alors que l'opposition a maintenu son appel à manifester ce mardi, malgré l'interdiction décrétée hier par les autorités locales de Conakry pour protester contre la violation par le pouvoir, selon elle, d'un accord conclu en août sur l'installation des élus locaux après le scrutin contesté du 4 février. Des échauffourées ont éclaté dans la capitale guinéenne entre quelques centaines de jeunes et les forces de l'ordre. Tout regroupement tendant à provoquer une marche ou empêcher les gens de circuler sera réprimé, avait prévenu le chef des unités d'intervention de la police, le général Ansuman Camara.
Au Mali, Mahamadou Djeri Maïga, vice-président du MNLA, est décédé hier à Bamako, membre de la coalition de l'ex-rébellion malienne. Il avait fait partie du comité de suivi de l'accord de paix conclu en 2015. En Sierra Leone, le Parlement a officialisé la création d'une commission d'enquête sur les cas de corruption sous la présidence d'Ernest Bai Koroma. Des débats houleux ont opposé partisans de l'ancien et du nouveau régime. Le président Julius Maada Bio a engagé une lutte vigoureuse contre la corruption et le gaspillage des fonds publics depuis son élection en avril. L'ONG Greenpeace a appelé le gouvernement sénégalais à renforcer la sécurité des pêcheurs artisanaux après la disparition en mer de milliers d'entre eux ces dernières années. Les accidents en mer surviennent à la suite de collisions avec les bateaux industriels, des problèmes météorologiques et des pannes de pirogues. Les pêcheurs ont mis en cause notamment les politiques de pêche inadaptées, la surpêche industrielle et les mauvaises pratiques pour expliquer la rareté du poisson ces dernières années. Au Zimbabwe, le principal dirigeant de l'opposition, Nelson Chamisa, a préconisé la formation d'un gouvernement transitoire d'urgence pour résoudre la crise politique et économique qui s'aggrave dans le pays. Le Zimbabwe connaît sa plus grave crise économique depuis 10 ans, qui s'est traduite ces dernières semaines par des pénuries de carburant, de nourriture et de médicaments en raison d'un manque de devises. Rendez-vous en seconde partie d'émission pour un reportage sur cette pénurie de médicaments. Aux Comores, le président Azali Assoumani s'est rendu dans la médina de Moutsamoudou, la capitale de l'île d'Anjouan, après les violences qui ont opposé un groupe de rebelles armés aux forces comoriennes durant 6 jours. Il a félicité la population et les forces de l'ordre pour leur professionnalisme. Au moins 2 personnes ont été tuées dans ces affrontements. Au Maroc, le parquet a annoncé l'inculpation pour homicide et blessures involontaires du conducteur du train dont le déraillement a fait 7 morts et 125 blessés le 16 octobre dernier au nord de Rabat.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le reste de l'actualité dans le monde, le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman, s'est rendu aujourd'hui à un forum international sur l'investissement à Riyad, une grande messe assombrie par le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi, qui a provoqué le boycott de plusieurs dirigeants étrangers et grands chefs d'entreprise. Plus de détails avec Salwa Jaafari.
Mohamed Ben Salman était assis au premier rang, aux côtés du roi Abdallah II de Jordanie. Il a quitté la salle au bout de 15 minutes. Une atmosphère très tendue et pour cause, la communauté internationale continue de demander des explications. À sa tête, le premier ministre turc Tayyip Erdogan.
Certaines informations recueillies par nos éléments de sécurité et de renseignement, qui sont toujours en cours d'évaluation, indiquent déjà que l'incident était planifié. Elles feront partie du dossier d'enquête du procureur dès que l'évaluation sera terminée. Mettre ça sur le dos de quelques membres des services de sécurité et de renseignement ne nous satisfera pas, pas plus que la communauté internationale.
Le président turc a également déclaré qu'il souhaitait que l'Arabie saoudite permette l'arrestation des 18 suspects et leur comparution devant les tribunaux turcs. De son côté, le président Donald Trump a envoyé la directrice de la CIA en Turquie dans le but d'obtenir plus d'informations sur la mort du journaliste. Son vice-président Mike Pence a réaffirmé que les Américains veulent des réponses et vont exiger que ces réponses interviennent rapidement.
Aussi, les ministres du G7, c'est-à-dire le Canada, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, le Royaume-Uni et les États-Unis, soulignent que les responsables de ce meurtre doivent rendre des comptes. L'Arabie Saoudite doit faire en sorte que cela ne puisse jamais se produire à nouveau. Il est extrêmement difficile d'annuler un important contrat de vente d'armes canadiennes à l'Arabie Saoudite, a estimé de son côté le Premier ministre Justin Trudeau, interrogé sur les mesures à prendre contre Riyad après le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi. Selon lui, le contrat signé par le précédent gouvernement conservateur rend extrêmement difficile son annulation sans devoir payer des pénalités exorbitantes. En Irak, 6 personnes ont été tuées, une vingtaine d'autres blessées dans un attentat à la voiture piégée contre un marché d'une localité au sud de Mossoul, l'ancien capitale du groupe État islamique. Et puis il me reste quelques secondes pour vous dire qu'en Belgique, l'ancien chef du groupe djihadiste Sharia for Belgium, Fouad Belkacem, a été déchu de sa nationalité belge. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco, présentée ce soir par Eric Manirakiza.
Au Kenya, les exonérations fiscales ont fait perdre près de 2,7 milliards de dollars à l'État sur les 3 dernières années. Selon le responsable des impôts, entre 85 et 90 milliards de shillings échappent aux caisses de l'État chaque année. L'introduction d'une exemption de TVA pour des projets financés par des bailleurs de fonds internationaux a notamment contribué à cette situation. En Angola, la dette publique se chiffre à 70 milliards de dollars. Luanda a utilisé cet argent pour financer des projets liés à l'énergie et à l'eau, à la construction et au transport. Malgré les inquiétudes sur la croissance de la dette angolaise, les autorités du pays ont montré une confiance absolue en leurs finances et ont rassuré les investisseurs sur la viabilité de la dette. Le gouvernement espère réduire le déficit budgétaire et le poids de la dette grâce à son programme de stabilisation macroéconomique. D'ici 2060, la consommation mondiale des matières premières devrait doubler et atteindre 167 milliards de tonnes. L'OCDE enregistre actuellement 90 milliards. L'étude intitulée « Perspective mondiale des ressources matérielles à l'horizon 2060 » souligne que cette consommation à l'échelle de la planète représenterait l'équivalent de 45 kg par jour. Les émissions de gaz à effet de serre liées à l'extraction et à l'utilisation des matières premières devraient passer de 28 milliards de tonnes à 50 milliards.
Et maintenant, la page sport, présentée ce soir par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Claire et bonsoir à tous.
Alors, l'Espérance de Tunis est le premier club finaliste de la Ligue africaine des champions.
Les Tunisiens ont renversé la vapeur à domicile après leur défaite 1-0 en Angola au match aller face au Primeiro de Agosto. L'Espérance de Tunis a remporté la manche retour jouée ce soir même à Tunis 4-2. Les Tunisiens connaîtront leur adversaire de la finale tout à l'heure après la deuxième demi-finale retour entre les Algériens de l'Entente Sétif et les Égyptiens d'Al Ahly, vainqueurs 2-0 à l'aller, coup d'envoi 19h. Temps universel.
La première liste de Rigobert Song est tombée.
Récemment nommé à la tête de la sélection des moins de 23 ans du Cameroun, Rigobert Song a convoqué 35 joueurs pour la double confrontation face au Tchad. En éliminatoire de la CAN des moins de 23 ans, Égypte 2019, Coton Sport et Eding sont les clubs les plus représentés dans cette liste avec 6 joueurs chacun. L'ancien capitaine des Lions indomptables a pour mission de qualifier le Cameroun pour les Jeux Olympiques Tokyo 2020. Les deux matchs face au Sao sont prévus le 12 et le 20 novembre pour le compte du premier tour de ces qualifications.
4 Africains nominés pour le prix d'athlète de l'année.
Et oui, Claire, la Fédération internationale d'athlétisme a dévoilé une liste de 10 stars en lice pour la récompense. Le Kenya élu de Kipchoge, vainqueur du marathon de Berlin et tombeur du chrono sur la distance, est un grand favori pour le trophée. À ses côtés, ses compatriotes Timothy Cheruiyot, meilleur performeur de l'année sur 1500 mètres, et Emmanuel Courir, plus rapide sur le 800 mètres cette année. Enfin, le Sud-Africain Louvo Manyonga, vainqueur de la Ligue de Diamants et des Jeux du Commonwealth en saut en longueur, est aussi nominé. Le lauréat sera connu le 4 décembre.
C'est pas mal de s'appeler Courir quand on fait de la course à pied. Bon allez, la NBA pour finir. LeBron James et les Lakers encore. Une défaite défaite.
Oui, Claire, LeBron James a enchaîné une troisième défaite de suite avec les Los Angeles Lakers devant les San Antonio Spurs 143 à 142. Après prolongation, King James, 32,8 rebonds et 14 passes décisives, a raté deux lancers un franc cruciaux puis le tir de la victoire. Lors d'une fin de prolongation folle qui a vu les Texans réussir un 7-0 pour s'imposer in extremis.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. Amnesty International tire la sonnette d'alarme sur les prisons à Madagascar. Des milliers de personnes sont maintenues en détention préventive, injustifiée, excessive et prolongée dans des conditions qui mettent leur vie en danger, affirme l'organisation. Pour en savoir plus, Morgane Guerriec a joint Tamara Léger, conseillère du programme Madagascar pour Amnesty International.
Les établissements pénitentiaires du pays comptent plus de personnes qui n'ont pas été condamnées encore, toujours en attente de jugement, que de personnes qui ont été condamnées. Plus de 50% des hommes qui sont derrière les barreaux, c'est 70% des femmes emprisonnées qui sont en attente de jugement, et chez les enfants, c'est carrément 80%.
Qui sont ces personnes? Pourquoi se retrouvent-elles en prison?
Une grande partie des personnes prévenues sont en prison pour des raisons qui ne justifient absolument pas une détention et surtout pas dans des conditions telles qu'elles sont. Par exemple, chez les enfants et chez les femmes, il y avait beaucoup de prévenus qui étaient là pour des vols simples, un vol de poulet, un vol de vanille, pour des histoires d'escroquerie. La constitution même de Madagascar dit que la détention préventive doit vraiment être une exception.
Détention préventive qui peuvent durer très très longtemps apparemment.
La loi permet aux détentions préventives de durer plus de 5 ans. Chez les adultes qui sont accusés des crimes les plus graves. Et pour les enfants, 33 mois. 600 enfants, c'est près de 700 qui sont derrière les barreaux, dans des conditions déplorables. Ils dorment à même le sol, dans des conditions surpeuplées. Ils n'ont pas accès à leur famille et pas accès à des avocats.
Sur ces conditions de détention qui sont particulièrement difficiles, il y a eu des personnes qui sont mortes en prison.
L'année dernière, il y a eu 129 personnes qui sont décédées, au moins. Et parmi eux, 52 étaient en attente de jugement. Donc, c'est-à-dire que ces 52 personnes-là n'auront finalement jamais accès à la justice.
Alors, comment expliquer cette situation?
Nos recherches ont montré que la plupart des magistrats semblent adopter une approche assez punitive, alors que dans le droit malgache, les alternatives à la détention existent. Et d'ailleurs, sur le papier, elles doivent vraiment être la priorité. Et en réalité, on voit bien que très souvent, les hommes, les femmes, les enfants sont mis en détention préventive en attendant leur procès.
Est-ce qu'il y a aussi un problème de moyens?
Le gouvernement a échoué à faire du système de justice pénale une priorité. Donc ce manque de moyens il s'illustre par le manque de personnel. Hier, on était dans la prison de la capitale, dans une cour où il y avait près de 400 détenus et il n'y avait que deux gardes.
C'était Tamara Léger, conseillère du programme Madagascar pour Amnesty International. Donner une seconde vie aux déchets plastiques, c'est la mission que s'est assignée Makumba Diagne, un jeune entrepreneur dont la société est basée à Thiès au Sénégal. Elle collecte et recycle tout ce qui est déchets plastiques. John Lyndon, notre envoyé spécial à Dakar, s'est rendu sur place. Voici son reportage.
C'est ici, à environ 70 km du centre-ville de Dakar, que sont traités la plupart des déchets plastiques collectés dans la ville de Thiès. À la tête de l'entreprise en charge de cette initiative, un jeune, Makumba Diagne. Avec ses employés, dont une bonne partie sont des femmes, il s'est engagé à apporter une solution aux problèmes d'emploi et d'insalubrité dans la ville de Dakar, notamment à travers la collecte des déchets plastiques. Makumba Diagne, directeur général de Proplast.
Dans le domaine de la collecte, nous parvenons à créer beaucoup d'emplois en faisant une collecte formelle, en mettant en place des kiosques à travers un réseau de collecte où les personnes peuvent y travailler et gagner leur vie décemment.
Le Sénégal a récemment voté des lois contre les déchets plastiques en vue de protéger l'environnement. Ici à Proplast, on les collecte, mais aussi on les recycle. Makumba Diagne.
Une fois que cette matière-là est collectée à travers ces réseaux, c'est acheminé au niveau de cette usine afin d'être valorisé.
Et quand c'est valorisé, on a une matière première secondaire qui peut être par la suite réutilisée par toutes les industries du Sénégal, dans la sous-région et partout dans le monde.
La jeune entreprise de collecte numéro 1 du recyclage au Sénégal reste aussi très présente auprès des populations du quartier Silmang où elle est installée. Pape Sambaba, responsable des ressources humaines.
On travaille aussi avec les associations de femmes, les groupements de femmes, les associations de jeunes aussi, pour essayer de les aider et aussi essayer aussi de montrer l'existence de Proplas dans Silma, et essayer aussi de les accompagner dans leurs activités culturelles, sportives et sociales, tout ça.
Les déchets plastiques collectés sont rachetés aux populations qui reçoivent entre 50 et 100 francs CFA par kilo. Une rémunération qui a permis à beaucoup de personnes ici d'en faire leur gagne-pain.
Redonner une seconde vie aux déchets plastiques, c'est décidément l'objectif que s'est assigné la société Proplast. Un objectif qui lui permet non seulement de sauver l'environnement, mais aussi de faire vivre de nombreuses familles ici. John Linden, à Thieste, pour VO Afrique.
FM 102, c'est VO Afrique à Dakar, au Sénégal, 24 heures sur 24.
Au Zimbabwe, la crise économique a entraîné une grave pénurie de médicaments. Selon les autorités, cela pousse de nombreuses personnes à se tourner vers le marché noir, alors que de tels médicaments faux pour la plupart peuvent faire plus de mal que de bien. De Harare, le correspondant de la VOA, Columbus Mavunga, nous propose ce reportage. Le récit est de Jacques Aristide.
Le spectre des pénuries au Zimbabwe va maintenant au-delà du carburant et d'autres produits de base. La société pharmaceutique du pays a déclaré ne pas disposer de suffisamment de devises étrangères pour importer de médicaments contre le cancer, le diabète, l'hypertension. Idem pour certains antibiotiques. Lena Lukwani est âgée de 77 ans. Elle se dit chanceuse d'avoir des enfants à l'étranger qui ont pu lui faire parvenir des médicaments contre le diabète et l'hypertension dont elle souffre.
Ces jours-ci, c'est difficile. Sur les 5 médicaments dont j'ai besoin, j'en ai seulement 2. Et c'est comme ça depuis 2 mois. Je limite donc mon régime alimentaire, surtout celui de l'amidon.
Elle confie que ses amis malades se retrouvent parfois à court de médicaments. Ils sont alors contraints de les acheter dans la rue, là où l'on peut généralement se procurer de produits devenus rares sur le marché. Le gouvernement est toutefois catégorique. On ne peut pas faire confiance à ces médicaments. Shinga Yakwatidzo est de l'autorité de contrôle des médicaments du Zimbabwe.
Ces médicaments n'ont pas été testés pour s'assurer qu'ils sont de bonne qualité, sûrs et efficaces. Les gens peuvent donc acheter des médicaments en pensant qu'ils les aideront, mais ils risquent, au bout du compte, d'aggraver leur état de santé.
Mais tant que ces médicaments ne sont pas disponibles dans les pharmacies, le marché de rue continuera à prospérer, permettant potentiellement soit de sauver des vies de malades désespérés ou mettre leur vie en danger. Les pénuries et les hausses de prix actuelles sont les pires depuis que la crise économique et financière de 2008 a entraîné le Zimbabwe dans une spirale d'hyperinflation. Les prix de nombreuses denrées de base ont plus que doublé en moins d'un mois. Pour Nelson Chamisa, leader de l'opposition, la situation dans les hôpitaux est tellement choquante. Selon lui, les hôpitaux zimbabwéens sont malades et ne peuvent pas prendre soin de personnes malades. Depuis septembre, environ 50 personnes sont mortes du choléra.
Bonjour, c'est Nathalie Barge. On se retrouve à 19h05, temps universel, dans le monde au féminin, juste après les nouvelles. L'invitée de LMF est Thérèse Capange, Miss Maryland International, mannequin d'origine togolaise et angolaise, coordonnatrice de Miss Ebony World et présidente de la Fondation Thérèse Capange, visant à aider les filles à développer la confiance en soi. Le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel sur VOA Afrique. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook ce mardi. À tout à l'heure.
Après l'annonce du retrait des États-Unis d'un traité sur les armes nucléaires de portée intermédiaire, John Bolton, le conseiller de la Maison-Blanche à la sécurité nationale, s'est rendu hier à Moscou pour expliquer la position de Washington sur le traité. Yacouba Ouédraogo a joint Corentin Brunstein, directeur des études de sécurité à l'Institut français des relations internationales.
L'accord a consisté à interdire à la fois le test, la production et le déploiement de missiles sol-sol, c'est-à-dire tirés depuis le sol sur des cibles terrestres, d'une portée allant de 500 km à 5500 km, qu'il faisait suite à ce qu'on a appelé la crise des euromissiles, qui a été provoquée par le déploiement d'abord par l'Union soviétique, puis par l'OTAN, de ce type de missiles, qui était à la fois moderne, de plus en plus précis, et qui permettait d'effectuer des attaques sur le continent européen.
Pourquoi les États-Unis veulent se retirer de cet accord?
Le retrait américain est motivé à la fois par le constat selon lequel la Russie ne remplirait pas les obligations contractées dans le cadre du traité, en ayant testé puis déployé un missile de croisière conventionnel, mais potentiellement nucléaire, mais surtout d'une portée interdite par le traité. Et à côté de ça, vous avez une pression grandissante du côté asiatique, qui est que les États-Unis, dans le cadre de leurs engagements vis-à-vis de leurs alliés, le Japon, la Corée du Sud, se préparent au risque d'une confrontation avec la Chine. Et la Chine a massivement, depuis les années 80, développé des systèmes qui seraient interdits dans le cadre du traité FNI, mais traité qui était un bilatéral, donc elle ne l'a pas signé. Et les États-Unis veulent être en mesure de répondre à cette menace. Et pour ce faire, ça fait déjà longtemps qu'ils identifient que le traité FNI est un problème de leur point de vue. Donc une fois qu'ils sont débarrassés de ces contraintes-là, ils considèrent qu'ils pourront plus facilement déployer des missiles de portée intermédiaire auprès de pays hôtes qui seraient établis en Asie orientale.
Est-ce à dire que cet accord entre les États-Unis et la Russie profite à la Chine?
La Chine n'était pas contrainte, donc elle, on va dire, a profité indirectement de l'existence du traité FNI dans la mesure où les Américains étaient plus contraints dans ce segment de capacité, on va dire.
On a entendu l'Union européenne exprimer son inquiétude sur ce retrait américain de l'accord. De quoi a-t-elle peur?
Le traité tel qu'il a été conçu à la base, il visait à éviter une guerre nucléaire en Europe. Donc c'est un traité qui était paradoxal au sens où il était bilatéral, mais il avait comme principal objet la sécurité de l'Europe. Donc c'est pas surprenant que les Européens soient préoccupés par ce type de décision de l'administration Trump.
En cas de retrait effectif des États-Unis, quelles pourraient être les conséquences?
Du côté américain, ce sera que les États-Unis pourront librement développer et tester surtout des capacités qui étaient jusqu'alors interdites. Pendant ce temps-là, les conséquences immédiates, ça va être que la Russie va être libre de déployer, de produire librement des missiles en plus grand nombre en Europe.
C'était Corentin Brunstein, directeur des études de sécurité à l'Institut français des relations internationales.
Salut les amis, ici Roger Noutou sur VOA Afrique, restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débats, RM Show donne la parole à nos auditeurs. En direct sur Facebook Live, VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa!
Yeah, hey, Trio Production. Je vous ai dit qu'il en m'avait eu. Dieu a fait venir des cieux. Une nouvelle inspiration pour réguer toutes les nations. Baby Philippe, c'est mon nom. Tu veux ma belle baby B. Le chouchou des nanas. Je viens vous déranger. Ami, après que vous, ça va décoller. Oh, oh. Allez, viens danser, danser.
Cette édition, merci de votre fidélité à VOA Afrique, à la mise en onde Firmin Max Koya Veda et Georges Léonard Sagnot, à la console Dan Crafton, au micro Clermont Rajibour. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, un seul site internet, voafrique.com, et notre page Facebook, bien sûr. Je reste avec vous pour un prochain point sur l'information. Merci.
Baby, bien positionné, mon gars, tu sais qu'on va s'enjailler. Et ma voix te...